Salut à tous, bienvenue dans Plein Écran, bienvenue à Paris. Plein Écran qui cette semaine va parler, une fois n'est pas coutume, du logiciel libre, car à Paris se déroule cette semaine Solutions Linux, le salon professionnel, semi-professionnel d'ailleurs, vous allez le voir, du logiciel libre. Le logiciel libre, un marché un peu particulier, un marché qui oscille constamment entre business et politique. Solutions Linux, c'est le rendez-vous français des professionnels du logiciel libre, ses systèmes et ses outils souvent gratuits, développés, améliorés et partagés en ligne. Parmi tous ces exposants, petits et grands, les stars ce sont peut-être les éditeurs de Linux, le système d'exploitation concurrent libre et gratuit de Windows et de macOS. Linux qui existe en plusieurs versions, en plusieurs distributions, comme on dit ici. Le choix est affaire de goût et peu importe leur nom, l'immense majorité de ces distributions sont gratuites, car ce n'est pas en les vendant que leurs éditeurs gagnent de l'argent.
Le principe de la gratuité est pour nous quelque chose de très important parce qu'on veut absolument fonctionner avec une communauté. Et ce que l'on donne à la communauté nous rend en 10 fois mieux. Comment est-ce que nous on fait du business là-dessus? C'est tout simple, on vend des services par-dessus. Du support, de la formation, et puis au fur et à mesure que l'on trouvera de nouveaux modèles, on les mettra en place.
Il faut le dire, Linux a beaucoup, beaucoup évolué en 15 ans. Pour Mandriva, un éditeur français qui avance sa propre distribution du système libre, l'ergonomie de Linux n'est plus un frein à son adoption dans le grand public.
Au départ, on s'est adressé à des utilisateurs finaux. On s'adresse aujourd'hui à des entreprises avec cette même volonté de rendre accessible le système d'exploitation Linux aux utilisateurs, qu'ils soient administrateurs système ou Monsieur Durand sur un ordinateur à la maison.
De fait, quand on teste ces versions les plus récentes, comme ce Mandriva One, on est bluffé par le soin apporté à l'interface. Ici, l'utilisateur peut gérer plusieurs bureaux à la fois. Une gestion très graphique quand elle permet de choisir entre ces 4 bureaux comme on ferait tourner un cube. Autre moyen simple de s'y retrouver entre toutes ces applications, pousser la souris dans un coin de l'écran et toutes les fenêtres s'affichent. En un clic, l'utilisateur peut aussi zoomer à l'intérieur d'une fenêtre. On peut même tirer sur le coin d'une fenêtre pour aller jeter un coup d'œil à ce qui se passe en dessous. Pour le reste, le menu de démarrage et les applications fournies en standard ne dépayseront pas les utilisateurs habitués à Windows. En fait, ce que Linux offre en plus dans ses différentes versions, c'est surtout le choix, beaucoup de choix. Si cette interface ne vous plaît pas, libre à vous d'en choisir une autre. Détail qui tue, ce système Linux, nous n'avons même pas eu à l'installer pour le tester. Il a suffi de démarrer le PC à partir d'une clé USB. Un système qui serait donc en bien des égards égal ou supérieur à ses cousins de Microsoft ou d'Apple, le tout pour un prix forcément imbattable. Comment alors expliquer le fait que les PC de Monsieur Tout-le-Monde n'aient pas encore tous sauté le pas? Un problème de culture, ou plutôt de monoculture.
On le voit dès l'école. À l'école, on va effectivement vous parler de système d'exploitation Windows, on vous parle d'Excel et de Word, et absolument pas de tableur ou de traitement de texte. Donc dès lors qu'on réussira à parler de tableur et de traitement de texte, c'est qu'effectivement on aura perçu l'existence de cette alternative. On est aujourd'hui encore un peu en retrait malgré tout à ce niveau-là.
Ce handicap face au logiciel propriétaire, il se sent surtout du côté du système d'exploitation. Firefox, le navigateur alternatif, a lui déjà conquis 25% de parts de marché en France. Et puis, il y a le logiciel libre que l'on ne voit pas, celui embarqué dans des appareils mobiles et tout le reste. De quoi garantir que même si vous n'avez jamais installé Linux, vous avez déjà forcément utilisé un logiciel libre, même sans le savoir.
Déjà, tous les gens qui utilisent simplement, qui accèdent à Internet, passent par du logiciel libre. On n'a pas d'infrastructure Internet sans logiciel libre, c'est le logiciel libre qui fait que Internet existe. Mais après, du côté du poste client, le navigateur comme Firefox est utilisé par beaucoup de gens sans forcément savoir que c'est un logiciel libre. Tous les gens qui utilisent la suite bureautique OpenOffice.org utilisent une suite bureautique libre. On trouve aussi dans les gens qui ont des sites avec des blogs ou qui utilisent des wikis, énormément de solutions de ce type-là en logiciel libre. Donc il y a beaucoup de personnes qui utilisent du logiciel libre sans même le savoir, effectivement.
De Linux à OpenOffice, en passant par Firefox, tous les logiciels libres ou presque ont à l'origine été développés par la communauté du libre, une communauté représentée à Solutions Linux par un village des associations, un village très peuplé qui regroupe tous ceux qui veulent étendre le domaine de la lutte et voudraient voir du libre partout. Ici, on est plus militants qu'exposants, des militants sympathiques, remuant parfois une cohabitation pas toujours facile avec des exposants plus conventionnels, surtout quand les seconds font mine d'oublier qu'ils font du business grâce au travail des premiers.
La vérité, c'est que du côté Corp, il y a énormément de sociétés qui vendent des solutions. Et c'est très très bien, on n'a rien contre ça, au contraire. Mais qui vendent des solutions qui sont basées sur des logiciels qui sont codés de ce côté de solutions Linux, c'est-à-dire par la communauté. Qu'on nous mette à part, c'est quelque chose qui m'a vraiment choqué. Et donc on a voulu mettre ça en avant.
À l'intersection de la technologie et de la politique, le logiciel libre est surtout en train de devenir un vrai secteur économique, avec une croissance à deux chiffres, de grands noms qui émergent et beaucoup de sociétés qui fondent leur business sur ces principes, des chiffres dont certains rattrapent ceux du logiciel traditionnel.
La base est restée militante, les développeurs de base sont restés toujours aussi militants, on les entend toujours autant, ils font beaucoup de lobby à Bruxelles, à Paris, donc eux ils sont toujours là. En revanche, c'est beaucoup plus structuré effectivement au niveau des affaires, des relations économiques, puisqu'on voit des fonds d'investissement qui mettent énormément d'argent dedans, on voit des modèles économiques assez différents qui fonctionnent plutôt bien avec des sociétés rentables, et 1 milliard pour MySQL par exemple, c'est une énorme valorisation au vu du chiffre d'affaires que génère aujourd'hui la société. Donc les perspectives de croissance sur ce marché de l'ordre de 26% de croissance par an, ça fait rêver les investisseurs et les sociétés de l'ancienne économie qui veulent mettre le grappin sur des relais de croissance potentiels dans le logiciel libre.
Ces startups du libre, on les trouvait dans les allées du salon. Un exemple parmi d'autres, celui de Talend, éditeur d'un logiciel plutôt compliqué qui extrait des données de vos systèmes d'information. Bref, un outil pas très grand public, pourtant téléchargé 250 000 fois en 18 mois. Passé dans le même temps de 2 à 60 employés et de 0 à 2000 clients, Talend croit dur comme fer, et on le comprend, aux vertus économiques du modèle libre.
La puissance en fait de l'open source, c'est qu'on est capable aujourd'hui avec l'internet, puisque l'open source en fait, le plus gros levier de l'open source, c'est la viralité, c'est la communauté et c'est l'utilisation d'internet. Donc c'est une formidable opportunité pour un marché comme la France qui produit des ingénieurs à haute valeur ajoutée de pouvoir être visible dans le monde entier. Donc ratons pas le virage de l'open source pour créer des leaders mondiaux.
Pour ces entreprises, la grande nouvelle du moment, c'est le rapport Attali qui préconise la généralisation du libre dans les administrations. Chez l'Inagora, on a déjà anticipé le rapport en faisant passer l'Assemblée nationale et la gendarmerie sous Linux et OpenOffice. Et on accueille le rapport avec un soupçon d'exubérance.
Mais qu'est-ce que nous dit le rapport Attali? Il nous dit qu'il faut que la France, si elle veut rattraper son retard dans le domaine de l'économie numérique, fasse en sorte de rétablir la concurrence entre logiciels libres et logiciels propriétaires, parce qu'aujourd'hui on est dans des situations de monopole, parce que nous, professionnels du logiciel libre, on arrive à se développer, mais que les grands acteurs traditionnels de l'informatique nous empêchent de nous développer comme on devrait nous développer, et donc rétablissons de la concurrence en favorisant pendant un certain temps l'émergence d'une industrie dédiée au logiciel libre. Donc le rapport Attali, il est capital pour l'ensemble des professionnels du logiciel libre.
Et puis, il y a celui dont tout le monde parle, mais qui n'expose pas ici, Microsoft, symbole du logiciel propriétaire qui s'intéresse pourtant au libre et qui noue même des partenariats avec des acteurs présents ici pour coller aux demandes de ses grands clients.
Ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est que Renault, autre grand constructeur français, a choisi d'équiper son data center de SUSE Linux Enterprise Server, qui est la distribution Linux de Novell, et ce, dans le cadre des accords de coopération avec Microsoft, et c'est Microsoft qui leur a vendu les serveurs Linux.
Vous imaginez la révolution culturelle que ça peut être chez Microsoft de vendre autre chose que du Windows?
Je vous le confirme, c'est une révolution culturelle, mais on a très bien agi avec Microsoft pour le compte et le bénéfice de ses clients qui sont de plus en plus nombreux à demander de l'interopérabilité. Et en tant qu'éditeur, notre travail, comme celui de Microsoft, c'est de s'adapter à la donne du marché et de faire en sorte de répondre à la demande client.
Ce qu'il faut retenir en fait dans la vision de Microsoft qui est vraiment intelligente, c'est que pendant des années et des années, ils ont tapé sur l'open source. Aujourd'hui, ils se sont aperçus que c'était une vraie vague, enfin c'était une vraie lame de fond qui ne pourrait pas éviter l'émergence en fait de ce modèle. Donc ils ont décidé de cohabiter avec ce modèle-là et surtout, ils ont vite réagi pour faire du business avec ce modèle-là.
Dernier espoir des industriels du libre, enfin s'imposer auprès du grand public. Des espoirs nourris par de nouvelles machines, telles l'OLPC, ce petit portable pour écoliers des pays pauvres, déjà distribué à des centaines de milliers d'exemplaires en Amérique du Sud. Une machine simple, connectée à l'internet grâce à ses petites antennes Wi-Fi et qui embarque toute une série d'applications éducatives, entre autres, une machine rendue possible par des logiciels libres.
L'objectif de l'OLPC, en tout cas du projet tel qu'il a été fait, ça a été de faire de la technologie pour donner accès à des enfants primaire, collège, etc., pour qu'ils puissent accéder à la connaissance, au savoir et apprendre plus vite, à se développer plus vite. Donc c'est d'offrir aux gouvernements des pays en voie de développement une facilité d'accès à bas coût pour l'ensemble de ses enfants, et pas dans les écoles ni dans les familles. C'est l'objet de l'enfant, c'est sa trousse avec ses crayons et son compas.
La bonne nouvelle, c'est que sur ce segment du petit PC sous Linux vendu à très bas prix, l'OLPC n'est plus seul, aujourd'hui rejoint par une machine plus puissante, directement, elle, proposée au grand public.
Son constructeur n'est pas présent au salon Solutions Linux. Ce petit PC est déjà en rupture de stock dans tous les magasins de France et de Navarre. Et pourtant, cette machine, l'Asus iPC comme il s'appelle, est peut-être l'une des stars de ce salon. Et pour cause, c'est pour la première fois un vrai PC grand public qui tourne sous du logiciel libre. Une vraie vitrine pour le libre dans le grand public. Regardez ce sujet, ce test en vraie grandeur signé Guillaume Delalande.
L'avantage d'un ultra-portable, c'est évidemment sa taille, 22 cm de large pour 16 de hauteur, idéalement placé entre un PDA et un ordinateur portable. 920 grammes qui tiennent dans un sac à main, l'IPC est avant tout un PC complet pour un prix défiant toute concurrence, 300 € seulement. C'est le résultat d'un choix stratégique, une coque en PVC mais assez solide, un hardware de base mais suffisant pour une utilisation bureautique et surtout un système d'exploitation Linux gratuit et paramétrable à volonté. Le démarrage s'effectue en quelques secondes et l'interface est on ne peut plus simple. Grosses icônes classées en thématiques, jeux, apprentissage, travail et internet. La bureautique est assurée par la suite OpenOffice. Le clavier, bien que tout petit, permet d'écrire vite, à deux doigts, à condition de ne pas avoir de main trop grande non plus. On y taperait quand même pas une thèse. Côté communication, tout y est, Wi-Fi, Bluetooth et même 3G si vous disposez d'une clé et d'un abonnement. Rien ne manque dans la Logitech, Skype pour la téléphonie, MSN pour le chat, Firefox pour le surf, l'idéal pour regarder simplement ses podcasts préférés. Et rien ne vous empêche d'ajouter vos programmes favoris s'ils sont disponibles sous Linux ou même d'y installer carrément Windows XP, la machine en est capable. Le pad, bien que petit, permet de naviguer simplement, même s'il est quand même bien plus pratique d'ajouter une souris USB sur l'un des trois ports disponibles. La webcam intégrée capte du 640x480 et elle suffit largement pour chatter en ligne. Côté multimédia, on trouve un gestionnaire de vidéos. Bon, en même temps, avec seulement 4 gigaoctets d'espace disque, il n'y a quand même pas la place de mettre grand chose. On peut cependant utiliser une carte SD ou une clé USB additionnelle qui se sentira forcément un petit peu sur l'autonomie. Test en grandeur nature. Un fichier vidéo sur une clé USB, le même, dans un baladeur Arcos. Forcément, l'écran de 7 pouces fait plaisir. Une vidéo parfaite. VLC pourra en effet lire tous les types de fichiers, à l'exception des formats HD. Mais en même temps, vu la résolution de l'écran de 800 pixels par 480, faut pas s'attendre à des miracles. Le problème récurrent en la matière, la durée de vie de la batterie. 3h30 maximum, performance tout à fait acceptable pour un ordinateur, beaucoup moins si on veut utiliser l'IPC comme un baladeur multimédia de luxe. Au final, l'IPC est une parfaite machine d'appoint, indispensable en voyage par exemple. Un ultra-portable avec un rapport qualité-prix imbattable, un ordinateur complet pour le prix d'un Arcos ou d'un iPod, chapeau.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. On espère que vous en avez appris un peu plus sur ce secteur très particulier du logiciel. Cette émission, vous pouvez la retrouver en intégralité et en podcast sur le site LCI, www.lci.fr. Excellente semaine à tous.